Du 2 au 8 novembre, c'était l'assemblée plénière des évêques à Lourdes et nous sommes avec notre évêque, Monseigneur Marcaillet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était vraiment une assemblée plénière des évêques, pas comme les autres. Dans quel climat s'est déroulée cette assemblée des évêques à Lourdes?
Alors, évidemment, ça a été assez contrasté. Disons que nous sommes tous arrivés un peu sous le poids de la charge, on peut le dire vraiment, parce que c'est vrai qu'après les révélations du rapport SIAS, de l'ampleur du phénomène des abus sexuels dans l'Église, on était quand même assez écrasés, et nous, évidemment, en première ligne, puisque nous sommes les évêques, et donc les responsables de la institutionnelle de l'Église. Et donc, forcément, bien, on était, j'allais dire, sous le feu des projecteurs, sous la pression d'abord de la souffrance des victimes, et ça, c'est une pression qui est tout à fait salutaire, et puis la pression aussi des médias, la pression des lobbies, la pression de beaucoup de gens qui, évidemment, regardaient les évêques avec un œil un peu défavorable et négatif. Et puis, même si le climat était assez éprouvant, l'Assemblée était extrêmement bien menée, avec des temps partagés ensemble, mais aussi d'abord avec les victimes, qui nous ont parlé dès le premier jour, après que nous ayons pris le temps de la prière et de la réception du rapport de la SIAS, et puis avec des carrefours entre évêques pour pouvoir partager un peu notre ressenti. Ensuite, on a eu cette journée et demie de séquence d'écologie intégrale, comme on le fait depuis 3 ans, et cette fois-ci avec des associations et des personnes en situation de précarité. Donc c'était un temps assez heureux, où nous avons écouté des paroles de pauvres qui avaient quelque chose à nous dire, et on était vraiment déjà tout à fait dans une étude d'écoute et de partage fraternel. Et puis ensuite, au fur et à mesure de notre... évidemment, vous savez, vous pensez bien que le problème des abus était au cœur de nos préoccupations, et on a accueilli 130 fidèles, laïcs, prêtres et religieux, de mouvements, d'associations de fidèles ou autres. Il y avait 26 jeunes d'ailleurs aussi, et avec lesquels on a passé un temps de synodalité, on pourrait dire, assez extraordinaire. On a eu d'abord des carrefours entre nous avec eux, où ils ont pu exprimer leurs souffrances, leurs interrogations sur l'institution ecclésiale, etc. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a vécu un temps extrêmement fraternel avec ces laïcs, ces prêtres, qui ont d'ailleurs ressenti comment les évêques étaient d'abord leurs frères, quoi. Et ensuite, ils ont fait des ateliers sur les différents problèmes posés, hein, par le rapport Sauvé. Et le lendemain, il y a une restitution qui a permis vraiment une expérience de synodalité extrêmement forte, où nous avons pu vivre au diapason de cette fraternité ecclésiale et entendre beaucoup de choses, partager beaucoup de choses. Et nous-mêmes, les évêques, on a ressenti un peu notre vulnérabilité, la nécessité dans laquelle nous sommes d'être mieux accompagnés encore par les fidèles laïcs dans l'exercice de notre charge. Et ce qui nous a permis de manière assez sereine, non seulement de faire une très belle célébration mémorielle et pénitentielle qui a été extrêmement profonde et authentique et qui a touché d'ailleurs particulièrement les victimes. Et puis le lendemain, bien, on a pris des résolutions qui évidemment ont été médiatisées, je pense, et qu'on a votées vraiment à l'unanimité. Et c'est là où je vois qu'on a fait un chemin spirituel à travers toute cette semaine, éprouvant mais extrêmement beau. Et je pense que la collégialité épiscopale en a été renforcée avec des efforts de synodalité très fécondes pour l'avenir.
Les victimes ont reconnu un grand pas en avant de l'Église.
Je crois d'abord on a vraiment, de manière très authentique, manifesté notre reconnaissance de leurs souffrances et en même temps notre désir non seulement de les aider à reconstruire leur vie, mais de réparer à travers une indemnisation. Et je crois que ça a beaucoup marqué aussi l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on a pris la décision, à l'aide d'une instance indépendante, d'attribuer une indemnité, évidemment au cas par cas, et qui sera financée par la cession d'une partie de notre patrimoine immobilier ou mobilier de la CEF, enfin de la Conférence épiscopale française, comme de nos diocèses.
Parmi toutes ces mesures, quelles sont, d'après vous, les mesures les plus importantes que les évêques ont prises à Lourdes?
Alors d'abord, il y a la reconnaissance, évidemment, institutionnelle, hein, de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est l'institution ecclésiale en elle-même ni l'organisation de l'Église qui est mise en cause parce qu'elle nous vient du Seigneur, mais disons qu'on a reconnu qu'il y avait pu avoir des fonctionnements dans la vie de l'Église, une certaine culture qui sans doute est partagée aussi par beaucoup d'autres institutions, mais ce qui nous intéresse évidemment c'est l'Église, et c'est encore plus grave quand il s'agit de l'Église, qui est l'Église de Jésus, hein, comme l'a dit souvent le président de la Conférence des évêques de France, mais il peut y avoir une culture dans le passé, hein, du déni, du silence, et qui a pu favoriser, en effet, comme une structure de péché, eh bien l'ampleur des phénomènes d'abus au sein de l'Église. Donc ça c'est important, cette responsabilité institutionnelle. Puis ensuite, ben, on a créé des groupes de travail synodaux, hein, avec la participation des laïcs, des prêtres, des religieux, pour travailler mieux l'accompagnement des prêtres dans leur ministère, l'accompagnement des évêques aussi dans leur ministère, les causes des violences sexuelles au sein de l'Église, un certain nombre de questions doctrinales, mais qui seront remises évidemment à la commission doctrinale de l'Épiscopat, qui, à l'aide des universités catholiques, ben, essaiera de mieux, j'allais dire, séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc un certain nombre de choses comme ça qui, je pense, sont des décisions fortes et qui font qu'on ne se contente pas d'avoir vécu cette assemblée comme une manière de dire maintenant on tourne la page, pas du tout. On entre dans un processus, comme on l'a dit souvent, qui est appelé à faire que notre Église soit plus sûre et que notre Église soit vraiment au diapason de l'Évangile et sûrement l'Église de Jésus.
Est-ce que vous, personnellement, ça va vous faire changer dans votre manière de gouverner le diocèse de Bayonne, par exemple? Est-ce qu'il y aura un avant après cette assemblée plénière ou non?
Forcément, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà mises en place, peut-être de manière un peu informelle. On va seulement formaliser davantage, oui, des modes de gouvernement dans lesquels on associera d'une manière plus formelle, plus institutionnelle, d'autres catégorie de fidèles du peuple de Dieu. Ça, c'est évident. J'ai ressenti personnellement, si vous voulez, là, et ce qui me travaille depuis longtemps d'ailleurs, et je le vis d'une certaine manière dans mon ministère, mais la nécessité de vivre notre épiscopat aussi, pas seulement comme ceux qui représentent le Christ tête, car on ne pourra pas en faire l'économie, évidemment, mais vivre vraiment une expérience de fraternité avec tous les autres fidèles baptisés, hommes et femmes, jeunes et vieux, de nos églises.
C'est peut-être ce que nous allons vivre pendant ce synode voulu par le pape ?
Certainement. Ce sera tout à fait une... C'est là qu'on voit que cette démarche synodale est tout à fait providentielle.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayé. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler avec vous de tout ce qui s'est passé, peut-être plus longuement, à Lourdes, lors de cette assemblée plénière des évêques de France. Merci à vous.
Tout à fait. Merci, Alexandre.